Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou d'avoir pris part à ce tour d'horizon via radiovinouvellefm.com. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la réalité trans et de la sexualité dans le réseau scolaire québécois. Le sujet du jour est inspiré d'un article intitulé « Politique transgenre peu populaire ». Depuis l'annonce de la CSDM qui a accepté de donner le libre choix aux élèves trans d'utiliser le vestiaire de leur choix, certaines commissions scolaires hésitent à aller dans ce sens. Effectivement, selon le Journal de Montréal, très peu de commissions scolaires au Québec sont ouvertes à l'idée d'offrir davantage de services aux élèves transgenres, comme le propose de le faire la CSDM. Or, sur une quarantaine de commissions scolaires contactées par le Journal de Montréal, seulement 3 ont affirmé vouloir suivre la voie tracée par la Commission scolaire de Montréal. Pour le moment, nous ne voyons tout simplement pas la nécessité d'une telle politique. Montréal a une réalité bien différente de la nôtre, a aussi commenté la commission scolaire de la Jonquière. Celle-ci n'aurait eu qu'un seul élève ouvertement transgenre dans ses rangs au cours des dernières années. Nous n'avons pas de politique et nous ne ressentons pas le besoin d'aller plus loin, a indiqué Gina Guilmette de la commission scolaire Marguerite Bourgeois sur l'île de Montréal et deuxième en importance au Québec. Seule la commission scolaire des Hautes-Rivières en Montérégie a affirmé vouloir mettre en place des directives semblables d'ici la fin de l'année scolaire. Les commissions scolaires English, Montreal et Marie-Victorin y songent également. Du côté de la CSDM, on affirme que ces mesures, qui devraient être adoptées officiellement mercredi soir, font quasiment l'unanimité. Du côté des jeunes, 2 anciens élèves transgenres se seraient manifestés mardi pour féliciter la commission scolaire. Les enseignants, eux, demeurent sur leur garde. C'est une bonne nouvelle, mais je crois que la CSDM devrait s'engager à informer davantage les profs sur cette question. Ce n'est pas à eux de se débrouiller avec ça et de gérer les questions que les parents se poseront, déclare la porte-parole de l'Alliance des professeurs, Frédéric Lecourt. Ici, on voit un élément important, le pouvoir des parents, mesdames et messieurs. Les parents ont un véritable pouvoir. Mais savez-vous c'est quoi le problème? C'est qu'ils ne l'exercent pas ou s'excluent eux-mêmes de la table des décideurs. Et qu'est-ce qui arrive en bout de ligne, mesdames et messieurs? Eh bien, ce sont les représentants des lobbies qui exercent leur pouvoir. Pendant que les parents n'exercent pas leur pouvoir démocratique, les lobbies placent leur porte-parole à des postes clés. Pendant ce temps, les pro-trans trouvent des alliés et ne se gênent pas de se prononcer sur le sujet. Par contre, l'aval de la CSDM suscite des inquiétudes, même chez les trans. Et oui, mesdames et messieurs, un d'entre eux, une ex-femme, craint que les nouvelles directives de la Commission scolaire de Montréal accentuent l'intimidation à l'endroit des enfants transgenres. Pour contrer le phénomène d'intimidation, le Journal de Montréal nous informe que la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, a pour sa part élaboré un protocole d'accueil pour incorporer ces jeunes dans les écoles secondaires, ce qui faciliterait l'intégration des trans dans les écoles qui relèvent de sa juridiction. C'est effectivement ce que Daphné Dion-Vient nous apprenait dans un article intitulé « Protocole d'accueil pour les élèves transgenres dans le Bas-Saint-Laurent ». Voilà ce qu'elle nous apprend. Ce protocole d'accueil décrit de façon détaillée les étapes à suivre dans cette situation. À la suite d'un diagnostic de dysphorie du genre, ou ce qu'on appelle communément trouble de l'identité sexuelle, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'à la suite de ce diagnostic de dysphorie du genre, une série de rencontres sont prévues avec la sexologue, la direction, les enseignants et tout le personnel de l'école afin de les informer de la situation et de convenir des aménagements à faire. Une salle de toilette neutre est mise à la disposition de l'élève et le changement de nom est fait sur les listes d'inscription. Déjà, mesdames et messieurs, une toilette neutre est plus intime qu'une toilette ouverte à tous. Cependant, il faut faire attention, parce que ça va ouvrir la porte à ce que toutes les toilettes deviennent éventuellement multisexes ou ouvertes à tous. Mais je poursuis. La sexologue rencontrera par la suite les camarades de classe de l'élève transgenre pour leur donner de l'information sur cette réalité en insistant sur l'importance du respect. Ce protocole a aussi été mis en place à l'école secondaire de la Pocatière où un élève a changé de sexe pendant le congé des fêtes. La sexologue rencontrera par la suite les camarades de classe de l'élève transgenre pour leur donner de l'information sur cette réalité en insistant sur l'importance du respect. Ce protocole a aussi été mis en place à l'école secondaire de la Pocatière où un élève a changé de sexe pendant le congé des fêtes. La sexologue Annie Kirchbaumer était sur place lors de son retour en classe en janvier. On avait vraiment planifié la journée pour répondre aux questions des jeunes et ça s'est très bien passé, affirme-t-elle. Des élèves avaient même organisé une collecte de vêtements afin que l'ancien garçon puisse remplir sa garde-robe de vêtements féminins. La commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup est d'ailleurs l'une des rares au Québec à embaucher une sexologue à temps plein. Dans ces écoles, l'éducation à la sexualité y est enseignée depuis des années, malgré le retrait officiel de ce programme par le ministère de l'Éducation. Et les résultats sont au rendez-vous. La cyberintimidation, les infections transmises sexuellement et les grossesses non désirées sont en baisse, indique la directrice. Donc, selon cet article, on y constate trois résultats à la baisse concernant quoi? Les ITS, les grossesses non désirées et la cyberintimidation. Concernant les ITS, Marie-Ève Tardif, du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, en collaboration avec Valérie Marchand, du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous informe que plusieurs infections transmises sexuellement et par le sang sont en recrudescence au Québec, notamment chez les 15-24 ans. La chlamydia et la gonorrhée sont en hausse constante depuis plusieurs années. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 66 % des cas déclarés de chlamydia. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 44 % des cas déclarés de gonorrhée. Le portrait des infections transmises sexuellement et par le sang au Québec souligne que l'augmentation des ITSS chez les 15 à 24 ans ne se limite plus à la chlamydia et à la gonorrhée. Le nombre de diagnostics de syphilis et de VIH est en effet préoccupant. Par contre, en ce qui concerne les grossesses chez les filles d'âge scolaire, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le taux de grossesse des adolescentes a connu une hausse de 57 % de 1980 à 1992, soit une hausse moyenne de 4 % par année. De 1992 à 1998, le taux de grossesse chez les jeunes filles âgées de 14 à 17 ans est resté stable, entre 19 et 20 pour 1000 adolescentes, avant de diminuer pendant les 5 années suivantes pour s'établir à 16,6 pour 1000 adolescentes en 2003. Par ailleurs, selon l'INSPQ, le Centre d'expertise et de référence en santé publique, en 2006, le Québec affichait le quatrième taux d'interruption volontaire de grossesse le plus élevé au Canada. Depuis, le taux d'interruption volontaire de grossesse au Québec a constamment diminué, en particulier chez les femmes de moins de 30 ans. Mais je poursuis. En ce qui concerne la cyberintimidation, on voit qu'elle est en baisse dans l'ensemble du Québec. Et oui, mesdames et messieurs, pour bien se situer, selon le SPVM, la cyberintimidation, c'est le fait de harceler une personne ou de tenir à son endroit des propos menaçants, haineux, injurieux ou dégradants, qu'ils soient illustrés ou écrits. Elle concerne également le fait d'harceler une personne. Les moyens employés sont nombreux, par exemple le courriel, les salons de clavardage, les groupes de discussion, les sites web, les messageries instantanées, etc. Malheureusement, les conséquences de l'intimidation pour les victimes sont variées, allant de la perte de l'estime de soi à la dépression et même dans certains cas au suicide. Ce qui est attristant, mesdames et messieurs, c'est ce que nous apprend le SPVM qui nous dit que 25 % des jeunes internautes disent avoir reçu par courriel des documents haineux sur d'autres personnes. 34 % des élèves de 9 à 17 ans, et oui, mesdames et messieurs, de 9 à 17 ans, affirment avoir été victimes d'intimidation ou de harcèlement sexuel au courant de l'année scolaire. De ce nombre, 27 % ont été victimes d'intimidation par Internet. Il est à noter que parmi ceux qui font état de harcèlement sexuel, la situation est inversée. 47 % indiquent être victimes de harcèlement sexuel à l'école et 70 % sur Internet. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est que selon la presse, la cyberintimidation est moins fréquente au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Par contre, Lia Lévesque, dans cet article, nous informe que ce sont plus souvent les célibataires et les membres de minorités visibles qui en sont victimes. Je crois, mesdames et messieurs, que dans la société dans laquelle on vit, Les sexologues en milieu scolaire sont nécessaires. Maintenant, ce qui est déplorable, c'est la situation suivante. Si les victimes d'harcèlement et de cyberintimidation sont les membres des minorités visibles et les célibataires, pourquoi est-ce que les sexologues et les infirmières en milieu scolaire ne mettent pas en valeur la virginité et l'abstinence sexuelle avant le mariage? Pour avoir œuvré dans le milieu scolaire, il s'agit d'un choix philosophique, mesdames et messieurs. La preuve, au Brésil, on inclut dans la diversité sexuelle le concept de virginité tardive. Voici ce que nous dit le magazine Marie-Claire à cet effet. Selon la Brésilienne Elisabeth Regina de Oliveira, docteur en sociologie du sexe, le sexe est un état d'esprit, oui, mais aussi une réalité physique. Notre corps répond aussi à des besoins sexuels. Mais on nous invite trop à croire que le sexe est essentiel dans notre vie pour parvenir au bonheur. On nous apprend que le sexe est la seule manière de former des relations intimes. Nous mettons donc à cœur de nous soumettre à cette convention sociale. Autrement, nous sommes qualifiés d'anormal ou de malade. Alors que la virginité est notre condition naturelle d'être humain. Nous naissons toutes vierges. Et à un moment, nous perdons cette virginité. La société nous pousse à croire que le sexe est inévitable, mais rien n'est plus faux. La sexualité, l'homosexualité ou la virginité tardive font partie des couleurs de l'arc-en-ciel de la diversité sexuelle. C'est intéressant de savoir que la sexualité, L'ASEUXUALITE, non pas la sexualité en deux mots, mais L'ASEXUALITE, ça veut dire de ne pas participer à de la sexualité. Donc, ce qui est intéressant à savoir, mesdames et messieurs, c'est que la sexualité et la virginité ne sont pas exclus de la diversité sexuelle dans le discours de cette sexologue de réputation internationale. On peut donc constater qu'au Québec, on préfère débattre sur la question trans que sur l'abstinence et la virginité prémaritale. En résumé, peu de commissions scolaires vont s'attarder aux demandes particulières des élèves trans, soit au total 1/10. Parmi celles qui vont s'attarder au phénomène, la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup a engagé une sexologue à temps plein pour intégrer les élèves trans et pour former les jeunes à expérimenter une sexualité responsable. Malgré que le Québec est sur la bonne voie, son travail donne des résultats plus satisfaisants au niveau de la diminution des grossesses non désirées et de l'intimidation, et il se démarque encore plus par rapport au reste du Québec en matière d'ITS, qui est à la hausse dans l'ensemble de la nation québécoise. Malheureusement, cette sexologue ne semble pas mettre l'accent sur la virginité et l'abstinence, contrairement à sa collègue du Brésil, qui est plus ouverte à ses perspectives. La question trans est une problématique préoccupante parce qu'elle touche non seulement un protocole social, mais également une réalité liée à l'intimité sexuelle, la pudeur et l'intimidation dans un contexte scolaire ou sportif. Quoi qu'il en soit, comme on l'a vu dans une émission antérieure, la question trans bouge dans l'actualité parce qu'elle est popularisée par un lobby organisé qui n'a qu'un seul but, imprégner les valeurs LGBT dans la culture québécoise. Cependant, mesdames et messieurs, cette réalité ne doit pas nous faire perdre de vue que la sexualité des jeunes mineurs d'âge scolaire est préoccupante et nécessite d'être adressée rapidement. L'augmentation des ITS chez les jeunes de 15 ans et plus en est une preuve flagrante. Sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, est-ce que la montée de la popularité des droits des trans en milieu scolaire vous inquiète? Est-ce que c'est important pour vous qu'on débatte de cette question? Est-ce que c'est important pour vous que les parents puissent voter sur les droits des trans en milieu scolaire? Et je vous invite à répondre à ces questions en m'écrivant à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Si vous désirez soutenir la mission de la station, vous n'avez qu'à vous rendre à radiovinouvellefm.com. C'est radiovinouvellefm.com et procéder à un don via l'application PayPal située dans le bas de l'écran. Notre objectif est de 25 000 $. Merci de nous aider à diffuser pour la vie. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 ou à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. En terminant, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou radiovinouvellefm.com. Je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!